hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors champ ce soir en compagnie de François Cheng. Peut-être partir de votre nom. Cheng, c'est le nom occidentalisé.
Non, non. Cheng, c'est mon nom de famille. C'est transmis par mes parents. Hein. Donc, c'est plutôt François. C'est mon côté français, oui. Mon prénom, oui.
Et votre prénom chinois, c'était quoi?
Ça se prononce Jixian. Jixian, qui veut dire célébrer la sagesse. Et toute ma vie, je me suis rebellé contre ce prénom, vous voyez. Je n'ai jamais cherché la sagesse. Hein. Alors que parfois, en France, on me prête cette qualité. Alors que ce n'est absolument pas la sagesse que je cherche. C'est la passion, hein, c'est la passion, oui.
La passion ou la déraison?
Pas la déraison, quand même. Toutes mes démarches sont quand même fondées sur la raison, quand même. Mais une raison ouverte, hein, une raison ouverte, oui.
Et vers le dérèglement de tous les sens aussi, quand on voit tous les livres que vous avez faits sur la poésie.
Ça, c'est vrai. Surtout durant toute ma jeunesse, j'ai connu toute cette période de dérèglement de tous les sens. C'est au-delà qu'on peut commencer à parler un peu des vérités de la vie. Et je ne sais pas par quel miracle... j'ai survécu jusqu'ici à tout et je connais le grand âge même, à mon très grand étonnement, puisque moi, je pensais vraiment mourir à 40 ans, à 50 ans, même à 30 ans, je crois.
Mais pourquoi 40... si jeune?
Parce que je ne bénéficiais pas d'un capital physique extraordinaire. Et surtout en Chine, j'ai passé toute mon adolescence, disons, cette période de croissance en pleine guerre, pendant 8 ans de guerre, de 37 jusqu'à 45. Donc on était sous-alimenté et mal soigné par les médecins. Et donc je pensais même, je dirais, mourir à 20 ans. Et puis je dis à 30 ans, et puis 40 ans, 50 ans, et je ne sais pas. Comment se fait-il que maintenant j'ai dépassé 80 ans? Enfin, ça, c'est absolument pas coquetterie, hein. Je dis la vérité. Il y a cet étonnement et qui m'a permis de réaliser certaines choses que j'ai désiré depuis longtemps de faire. Enfin, oui.
Quel souvenir gardez-vous, François Cheng, de cette période de la guerre? Vous l'avez vécu à Nankin?
Non. En effet, dans plusieurs de mes livres, j'ai évoqué ce drame du massacre de Nankin, mais je n'étais pas témoin direct. Hein. C'est par les récits, par les images. Cela dit, je n'étais pas loin de Nankin, puisque quand la guerre a éclaté, on a quitté Shanghai et puis le Hankou, un peu au centre de la Chine. Et finalement, on est allé jusqu'au fin fond de la Chine, à Chongqing, c'est-à-dire dans la province de Sichuan, qui commence à être connue des touristes occidentaux. C'est au Sichuan qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 3 ou 4 ans. Oui, voilà, mais c'est une province au paysage extraordinaire. Enfin, donc là... pendant, puisque vous m'interrogez sur cette période de guerre, bien sûr, nous avons connu le bombardement continu des Japonais, bien sûr, la pénurie, la sous-alimentation. Par contre, à cause de cela, nous nous sommes réfugiés dans la campagne, pas trop loin de Chongqing, mais en pleine campagne. Donc j'ai passé toutes mes années de lycée dans un des plus beaux paysages de la Chine. Ça, bien sûr, ça m'a marqué. Donc il y a ces deux extrêmes, hein. D'un côté le drame humain et de l'autre côté cette splendeur de la nature. Enfin, d'ailleurs, cette expérience-là a constitué les deux grands thèmes de mon œuvre, si on peut dire, oui.
Ben, le paysage est un thème récurrent dans l'ensemble de vos livres, François Cheng. C'est un paysage qui est source à la fois de méditation et en même temps de contemplation, comme si c'était une sève nourricière.
Oui, pour dire la chose un peu plus, d'une manière plus spirituelle, je dirais que je suis hanté par ces deux mystères, c'est-à-dire d'un côté, bien sûr, la beauté du monde et la beauté humaine aussi, hein, et de l'autre côté, bien sûr, le problème du mal. Pour moi, il y a ces deux grands mystères. Hein, c'est pas seulement deux thèmes, mais vraiment les deux mystères sur lesquels je m'interroge toute ma vie. Et j'ai compris qu'il faut essayer de répondre à ces deux mystères, sinon notre vérité n'est pas valable. En un mot, il faut tenir les deux bouts.
Et comment fait-on pour tenir les deux bouts? Il faut faire œuvre de poète, de philosophe ou de calligraphe, puisque vous êtes les trois en même temps.
Oui, les trois.
Il faut faire œuvre des trois en même temps.
Oui, parce que uniquement partir de la raison, hein, d'une sorte de raison résonante, on ne peut pas trouver des réponses sur ces deux énigmes. Donc la poésie, pour moi, est indispensable. Il faut essayer, par une sorte d'intuition, par une sorte de résonance, pour essayer de capter quelques bribes de vérité. Hein. Et puis la calligraphie, bien sûr, c'est aussi une manière de relier notre être au monde sensible. C'est cette triple pratique que j'ai essayé de mettre en œuvre toute ma vie aussi, oui.
Nous allons entendre la voix de Henri Maldinet qui va parler des blancs dans la poésie et du vide dans la peinture chinoise. C'est une archive du Bon Plaisir du 18 mai 1998 et cette thématique de la poésie et du vide dans la peinture chinoise, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre œuvre, notamment dans cet ouvrage qui s'intitule « Cinq méditations sur la beauté ». Nous allons entendre la voix d'Henri Maldinet.
Les ruptures, plus exactement les failles. Il y a la faille entre les mots et les choses. Mais dans la parole, il y a la faille entre la langue et le discours. Et il y a, plus importante et antérieure, la faille entre la première parole et la langue. Dans une poésie, la faille est entre les mots. Je veux dire, en prose, un mot est d'avance mobilisé vers sa fin par l'intentionnalité de la phrase. Quand je prends une phrase de prose, à l'avance, je sais plus ou moins vaguement ce que j'ai à dire, vers quoi se... En poésie, jamais. En poésie, le mot a son indépendance et l'apparition du mot nouveau transforme l'espace qu'il vient d'ouvrir. Or, dans la peinture chinoise, le vide est fondamental. À savoir que, dans un tableau chinois, il y a une partie non peinte, mais il ne suffit pas qu'il y ait une partie non peinte pour qu'il y ait du vide. Il faut que ce vide soit actif, il faut qu'il soit signifiant. Il y a exactement ce que dit l'un d'eux, soudain surgit autre chose. Le vide doit précéder le pinceau encre, il doit suivre le pinceau encre, et il surgit toujours autre chose. Et dans la peinture chinoise, on peut dire que tous les parties peintes, tous les tracés, ne communiquent entre eux que par le vide qui les sous-tend. Lorsqu'un tracé noir s'interrompt, il ne communique pas en sautant par-dessus la paille. Il révèle la paille, qui est ce que les Chinois appellent un vide médian. Et le vide médian, c'est le vide à travers lequel circule le grand vide, le souffle qui a besoin de vide. Et c'est lui qui fait l'unité de tout ce qui se passe en lui.
Nous venons d'entendre la voix d'Henri Maldinet. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations ?
Oui, fondamentalement, vous avez cette bonne idée de nous faire entendre la voix de Maldinet, que j'écoute avec émotion, parce que maintenant il atteint l'âge de 100 ans, hein, il vient d'atteindre. Et entre lui et moi, il y a eu cette rencontre, hein, oui. Alors que chacun a mené une œuvre déjà depuis longtemps, et tout d'un coup, un beau jour, on s'est rencontrés. Hein. Donc, je suis d'accord avec lui fondamentalement, oui.
Les vides dans la poésie, les blancs, est-ce très important pour vous ? Parce qu'on a l'impression que tout votre travail dans le registre poétique est construit sur une sorte de colonne vertébrale où le vide et le plein, pour paraphraser le titre d'un de vos ouvrages, sont exactement et strictement équivalent, François Cheng.
D'ailleurs, Maldinet l'a précisé, le vide en question est dynamique, parce que dans la pensée chinoise, le vide est lié à la notion du souffle, puisque toute la pensée chinoise, surtout d'inspiration taoïste, avance cette conception, hein, selon laquelle tout provient du vide originel. Donc, du vide originel émane le souffle primordial. Et tout procède, tout le monde physique provient de ce souffle primordial. Hein. D'ailleurs, cette idée-là d'ailleurs, est partagée par toutes les grandes pensées aussi. Bien, pour revenir à la pensée chinoise, donc l'idée du vide nous invite toujours de concevoir toute chose à partir de la source, au lieu de rester de ce côté des phénomènes, d'essayer de capter les choses à partir de leur source originelle. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pour cela que j'ai écrit, que je viens d'écrire l'ouvrage que je viens de publier.
Les âmes errantes, qui est en même temps un récit historique qui se déroule dans la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère, qui est donc une histoire qui semble bien réelle, qui est un épisode, une fable historique, mais qui en même temps, à la fin de cet ouvrage, est aussi un livre de poésie, puisqu'il se termine par le chant des âmes retrouvées.
Voilà, là c'est aussi, on retrouve ce vide originel, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, il s'agit d'un drame réel qui a tous les détails évoqués dans ce drame ont eu lieu au IIIe siècle avant notre ère. Donc c'est une tragédie antique qui a hanté l'imaginaire chinois et qui hante aujourd'hui encore. Donc peut-être en gros, je peux dire que le drame réunit trois principaux personnages qui sont liés par des liens d'amour et d'amitié et en même temps qui ont dû affronter le destin au sens de la tragédie grecque. Les deux figures masculines de ce trio ont dû affronter le tyran devenu le premier empereur de Chine et ils ont connu le sacrifice suprême. Et là, justement, le récit ne s'arrête pas avec l'achèvement de la tragédie, puisque lorsque tout semble consommé, le drame bascule dans une autre dimension, c'est-à-dire celle des âmes devenues errantes. Et lorsque, au bout de leur errance, ces âmes ont retrouvé le chemin de retour, ils ont noué un échange avec la survivante. Donc, cet échange entre les morts et la survivante fait que toute la vie vécue par ces trois personnages se trouve éclairée par une autre lumière. Et à cause de cette lumière, ils ont en quelque sorte revécu cette vie déjà connue, mais d'une autre manière, dans une sorte de résonance infinie. Mais je précise tout de suite, si vous permettez de continuer un peu. Non. Cet échange en question ne se situe pas, comme on peut l'imaginer, dans un au-delà imaginaire. Ça se situe tout simplement au cœur de ce que Rilke appelle le double royaume de la mort et de la vie. Et parce que c'est là que l'homme peut jouir, en quelque sorte, d'une vision de l'aventure de la vie bien plus complète que si l'homme se situe uniquement de ce côté de la vie. C'est parce que, je continue encore un peu, c'est bien au cœur de ce double royaume de la vie et de la mort, où le tout rejoint le rien, que paradoxalement, la vraie vie peut nous faire signe. Parce que c'est là que tous les désirs nés de nos passions terrestres touchent tout d'un coup leurs racines. C'est-à-dire, c'est là, au cœur de ce double royaume de la vie et de la mort, que tous ces désirs, toujours inaccomplis, toujours inassouvis, peuvent être happés par la nostalgie de rejoindre le désir originel. C'est le vide originel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ils ont compris que c'est ce désir originel qui, à partir du rien, a donné le tout à l'origine. Donc, à partir de ce désir originel-là, l'homme peut tout d'un coup comprendre que l'avènement de la vie n'est pas un simple donné, mais vraiment un don inouï. Et c'est à partir de là, justement, encore une fois, à partir de ce vide originel-là, que l'homme a compris que l'aventure de la vie est une aventure continue, bien sûr, mais toujours incertaine, qui dépend, au contraire, entièrement de notre propre élan vers la vie. C'est dans ce sens que ce livre, qui apparemment est une tragédie extrême en réalité, où les protagonistes ont connu l'extrême joie et aussi l'extrême douleur, mais et en même temps c'est un livre de vie, comme vous l'avez dit aussi, puisque ils ont capté cet élan du souffle originel qui a fait advenir l'univers vivant. Je crois que, comment dire, quand je parle de ce double royaume de la mort et de la vie, tout le monde dit, mais ça c'est un thème des poètes, comme Rilke, c'est un thème des philosophes ou des poètes. En réalité, chacun de nous connaît cette expérience. En réalité, nous n'avons cessé de dialoguer avec la mort, avec notre propre mort et avec nos morts. C'est-à-dire chacun porte le deuil de forcément depuis son enfance. Donc, parce que pour moi, la mort n'est pas ce couperet qui, à un moment donné fatal, tout d'un coup, ça tombe, hop là, ça y est, c'est fait, et on n'en parle plus. Pas du tout. La mort est partie intégrante de la vie, même la contemporaine intime de la vie. Parce que la mort, bien sûr, c'est une force négative qui a fixé la condition tragique de l'homme. Ça, nous sommes tous d'accord. Et d'un autre côté, la mort, à sa manière, est une force positive. Parce que c'est la mort qui nous permet de nous renouveler. C'est la mort qui nous oblige à nous transformer et à nous dépasser. Et surtout, c'est la mort qui transforme chaque instant, chaque événement, chaque acte de notre vie en une entité unique. Cette idée de unicité de notre être d'abord et de tous les instants de notre vie, c'est à cause de la présence de la mort. En ce moment même, nous sommes en train de parler. Moi-même, hein, je considère ce moment comme un des moments les plus privilégiés de ma vie. Mais pourquoi j'ai cette idée de ce moment unique, privilégié? Parce que j'ai la conscience que nous sommes des êtres mortels, qu'on ne peut pas renouveler ça tout le temps. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai écrit ce livre. C'est à travers ce drame, bien sûr, qui m'habite, à travers ce drame, j'ai posé beaucoup de questions, hein, sur le problème du pouvoir, sur le problème de la dignité humaine, et de la liberté humaine, et puis de l'idée du sacrifice, et puis bien sûr de l'amitié et de l'amour qui élèvent l'homme. Donc à travers tout cela, mais à la fin, j'ai poussé ce drame jusqu'à ses extrêmes limites et essayé d'interroger le mystère de notre destin. Donc moi, je considère, vous me accordez l'occasion de parler de ce livre. Ce livre reste un mystère pour moi-même, parce que je l'ai écrit poussé par un besoin, sous une impulsion que je n'arrive pas à m'expliquer. Hein. Mais maintenant, pour le besoin de répondre à vos questions, j'ai un peu réfléchi sur le mystère même de ce livre. Donc, je vous ai comme ça livré tout à trac ce que je, hein, qui a fait partie de ma réflexion. Enfin,
Mais ce qui est incroyable et extraordinaire dans votre œuvre, François Cheng, c'est qu'il y a à la fois ce désir de restitution de votre propre culture, et ce livre, Quand reviennent les âmes errantes, en est un témoignage irréprochable et extrêmement convaincant. Et en même temps, à l'intérieur de ce cycle, de cet épisode historique tragique que vous nous restituez, il y a aussi un dépassement de l'histoire chinoise qui tend vers l'universel de notre humanité. Donc comment arrivez-vous à conjuguer le travail sur un territoire qui vient de votre propre origine avec ce sentiment que vous nous donnez d'universel?
Voilà.
C'est comme Shakespeare, quoi.
Tout à fait. Je n'aurais pas pu écrire ce livre sans le détour par l'Occident. Ce livre fait vivre un drame chinois, hein, mais un Chinois qui serait resté en Chine l'aurait écrit autrement. Tandis que moi, j'étais marqué, bien sûr, par la tragédie grecque, par toute la pensée occidentale, toute la réflexion sur la liberté, justement, sur la dignité humaine, et puis sur le problème de la passion d'amour et puis la passion d'amitié aussi. Donc, j'ai été marqué par l'Occident, aussi bien par la tradition grecque que par la tradition judéo-chrétienne. Donc, c'est à cause de tout ce détour, et puis encore une fois, par la langue française, c'est l'occasion de le dire, ce livre a été écrit en français. Le fait d'écrire en français, pour moi, hein, ce n'est pas simplement le fait d'avoir emprunté une autre langue pour dire ce que j'aurais pu le dire en chinois aussi, pas du tout. Le détour par la langue française m'a permis de sortir complètement de moi-même, d'entrer dans l'intimité d'un autre. Ici, l'autre, bien sûr, c'est toute la tradition occidentale véhiculée par la culture française et par la langue française. Et cette langue elle-même est une exigence extrême par ses structures syntaxiques, par son génie de nuance et de précision, par son souci de style, oblige tout interlocuteur du français à toujours faire un effort par rapport à la langue ordinaire, hein, toujours faire un effort de repenser sa pensée, de repenser ses expressions linguistiques. Donc cette discipline-là m'a aussi m'a permis de m'élever dans un sens, dans ma manière de ressentir les choses, d'envisager les choses, et puis finalement de dire les choses. Parce que mon œuvre est une œuvre tardive, hein, mon œuvre est une œuvre tardive. Et puis encore une fois, je reviens à ce thème du grand âge. Je ne sais pas par quel miracle j'ai vécu, disons, une trentaine d'années de plus que j'ai imaginé de pouvoir vivre. Hein, j'ai pensé disparaître à 50 ans. Donc, j'ai survécu.
Vous avez passé votre vie à penser disparaître.
Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais donc, grâce à cette survivance, j'ai eu le temps quand même de repenser le tout. Donc, ma propre culture, la culture occidentale, j'ai peut-être réussi en quelque sorte à faire une sorte de symbiose, mais une symbiose créatrice, je le répète, pas seulement comme un universitaire qui a fait une synthèse de tel ou tel thème, n'est-ce pas? Ici, j'ai connu, bien sûr, beaucoup de souffrance aussi. Donc, à cause de cela, j'arrive à cet âge où il me semble qu'un certain pouvoir m'est donné de pouvoir, en effet, comme vous l'avez dit, hein, de livrer un message d'universalité. Parce que la vraie universalité, hein, ce n'est pas simplement de combiner quelques qualités moyennes, de faire une sorte de mélange. Pas du tout. Il faut toujours aller jusqu'aux conditions extrêmes, creuser vers la profondeur. En fait, ici, la profondeur, c'est la hauteur, en réalité. Donc, il faut toucher la profondeur de ce qui a inspiré la culture chinoise et puis toute la profondeur qui a, à partir de laquelle a connu cette aventure extraordinaire de l'Occident. Donc c'est en creusant vers la profondeur qu'on peut vraiment atteindre l'universel et non pas une combinaison des qualités moyennes, hein, je le répète, oui. Là, c'est une sorte de cosmopolisme qui ne sont pas forcément productifs. Et, oui.
Mais vous avez évoqué ce double royaume. Mais en Occident, la mort ne fait pas bon ménage avec la vie. Contrairement à votre propre tradition, François Cheng, et on a l'impression que vous êtes un messager, justement, de la porosité entre ces deux mondes.
L'Occident a connu cela. Bon, il y a bien... les Grecs, déjà, ont deviné cela. Par la suite, bien sûr, il y a Dante, hein, qui a hérité de toute cette grande tradition. Et dans la comédie divine, il a inauguré ce thème. Par la suite, quand même, tous les grands mystiques, et puis... chez les romantiques allemands comme Hölderlin et puis par la suite comme Rilke ont ressorti ce thème, et y compris Goethe, il a dit « meurs et deviens ». Donc ce thème d'atteindre le vrai devenir par la mort, ça existait dans la tradition occidentale.
Seulement, hélas, plus
seulement
plus
de nos jours, oui. On a évacué ce thème.
Pourquoi, à votre avis?
C'est paradoxal, hein. D'un côté... Bien sûr, l'Occident a connu, y compris le monde entier, a connu ces deux grandes tragédies au XXe siècle. Tout d'un coup, on n'a plus cette idée On vit dans cette peur permanente, donc on essaie d'évacuer cela pour pouvoir évacuer en même temps nos angoisses. Et d'un autre côté, paradoxalement, l'Occident matériellement a atteint ce degré de confort qui nous permet de ne plus affronter toujours directement la mort causée par la maladie, par la faim ou par les misères. Donc on essaie de se protéger coûte que coûte contre l'idée de la mort, contre la présence de la mort. Donc nos morts sont comme ça. Et puis à cause du grand âge, souvent nos intimes ont fini leur séjour dans des maisons d'accueil ou dans des hôpitaux. Donc on évacue jusqu'à la présence même de la mort. Oui, c'est.
Et ça, nos cimetières sont de plus en plus loin du centre des villes.
Aussi, oui. Je crois que il faut réintroduire ce thème de manière positive. Je le répète. Hein. Curieusement, c'est la mort qui confère à notre vie le sens de la valeur. Sinon, à supposer qu'on est dans un ordre où la mort n'existerait pas, dans ce cas, tout est interchangeable, tout est différable. On n'a pas besoin de faire, ou on peut le faire ou ne pas faire, ça n'a aucune importance. Donc, il n'y a aucune idée de transformation, de dépassement, donc l'idée de valeur, ça n'existe pas. Donc, c'est cette urgence de dévisager la mort qui rend, je le répète, chaque instant de notre vie unique, et notre élan vers la vie, finalement, vient de là aussi. François, en tout cas, c'est mon cas personnel, hein, oui.
Et vous croyez au royaume des âmes errantes ?
Personne d'entre nous n'est capable de donner une réponse précise. Par contre, quelque chose est arrivé dans l'univers. Ça, nous ne pouvons pas le nier. C'est-à-dire cette immense aventure de la vie. À supposer qu'il y ait un créateur, même pour le créateur, cette aventure de la vie est une aventure. C'est pourquoi même du côté de l'Occident, la théologie introduit l'idée du Dieu futur, c'est-à-dire le Dieu lui-même est en devenir, puisque cette aventure ne dépend pas entièrement de lui. Ça, c'est le mérite de l'Occident d'avoir réfléchi sur la liberté humaine. Et à cause de cette liberté humaine, cette aventure de la vie est une aventure incertaine. Incertaine. Par contre, personne ne peut nier que chacun de nous ait participé à cette aventure. C'est-à-dire, comme Rilke l'a dit, avoir vécu n'est pas rien. Rien ne peut faire que nous n'ayons vécu. Et ayant vécu, nous sommes tous devenir des êtres désirants. Tout à l'heure, j'ai parlé du désir. Je dirais même que les désirs que nous portons en nous, c'est-à-dire cette faim, cette soif qui ne trouve jamais de réponse définitive au ras du sol, là, il y a quelque chose qui tend, en même temps que cette immense aventure de la vie, et la vie de chacun tend vers un ouvert, et non pas vers une fermeture un peu absurde et un peu ridicule, presque. Donc, pour ce qui me concerne, nos morts n'ont jamais cessé de nous parler. Et lorsque nous mourrons, nous ne cesserons pas de parler non plus, de désirer non plus. Donc,
et nous serons écoutés par les vivants ?
Oui, ça c'est le mystère de notre langage. Que l'homme soit devenu un être de langage, c'est pas seulement qu'on possède quelques moyens de communication. C'est un des plus grands mystères. c'est-à-dire à cause de l'existence de cette de ce langage, hein, tous les vivants ou tous ceux qui ont vécu constituent un immense réseau d'échanges. Je ne peux pas vous décrire ce qui en sera, n'est-ce pas? Mais vous non plus, hein? Donc, on peut discuter à l'infini, à quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec vous » ou bien « je dis je ne suis pas d'accord avec vous ». Ça n'a aucune importance. Il y a cette immense aventure à laquelle nous appartenons et à laquelle nous avons participé. Et nous continuons à faire partie de cette aventure. Voilà, c'est...
Mais peut-être pouvons-nous ressentir justement ce sentiment d'inachèvement qui est consubstantiel à notre sort d'être humain dans le monde en écoutant de la musique ou en lisant de la poésie. Nous allons écouter le cycle Voyage en hiver par le baryton Hans Hutter, Schubert que vous écoutez en boucle.
Oui,
si
oui,
j'ose
je l'aide beaucoup, Hans Hutter, oui.
Nous venons d'attendre Hans Hutter interpréter Voyage en hiver de Schubert et à la fin de votre dernier livre, François Tcheng, Quand reviennent les âmes errantes, il y a ce poème qui s'intitule Chant des âmes retrouvées et qui commence ainsi. Moi si proche déjà de la mort, moi déjà si loin de la mort, La mort a eu lieu, la mort n'est plus, plus rien ne subsiste à part le désir, pur désir inaccompli, mûr désir inassouvi. Toute vie est à refaire, toute vie est à revivre. Fallait-il passer par tant de détours, point d'interrogation, pour revivre, justement, ne faut-il avoir tout connu, point d'interrogation. Pensez-nous que nous allons pouvoir revivre après avoir vécu et être mort?
Encore une fois, je ne me permets pas de vous répondre sur cette question. Mais
non, mais vous nous indiquez un cheminement intérieur.
Tout à fait. Que ce soit en cette vie ou au-delà de cette vie, notre devoir est toujours de revivre et toujours autrement. Parce que déjà cette vie même contient une autre vie. Hein. La vie de chacun est toujours ceci et en même temps autre. Pour moi, le vrai chemin de la vie va vers l'ouvert. Hein, ça, c'est pour moi, hein, c'est vers l'ouvert. Encore une fois, je dis, il s'agit d'une immense aventure dont l'issue est incertaine et en même temps, c'est une aventure passionnante et cette aventure dépend, encore une fois, de l'élan de chacun vers la vie. Hein, tout à l'heure, vous m'avez fait écouter ce passage de Winterreise de Schubert, je vous suis très reconnaissant. Schubert est un frère pour moi. Schubert est mon frère. C'est-à-dire tout ce que, toute sa musique parle, me parle comme si ces mélodies viennent de moi-même. Et là, c'est aussi un des miracles de cette aventure humaine. C'est-à-dire, il est aussi proche de moi que peut-être mes propres frères. Hein. Il y a cette, à cause, encore une fois, de notre langage, hein, toutes nos relations par rapport aux autres, par rapport à la vie, se passent d'une manière infiniment plus mystérieuse que nous pouvons tout à fait concevoir nous-mêmes. Oui. Il faut avoir cette humilité d'accepter cela, d'accepter ce mystère. Oui, de échange et de communion, oui.
Merci beaucoup, François Cheng. Je rappelle que votre dernier ouvrage paru s'intitule « Quand reviennent les âmes errantes » chez Albin Michel et que sur le site internet de Hors-Champ, on pourra trouver tous vos livres. L'équipe de Hors-Champ, Éric Damadio, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Didier Lagarde et Brigitte Bouvier vous souhaitent une bonne soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.